Je vous propose de passer à la revue de presse avec Valérie Droux. Valérie, la Confédération a une fâcheuse tendance à la censure, c'est ce que dit ce matin un historien.
Oui, et pas n'importe lequel, le président de la Société Suisse d'Histoire, Sacha Zala. Il est interviewé dans le Tagesanzeiger, le Bund et la Berner Zeitung, suite à la disparition révélée par ces mêmes journaux samedi passé de documents concernant la P26. La P26, cette armée secrète chargée d'organiser la résistance en cas d'occupation soviétique démasquée en 1990. Censure, donc, dit l'historien. Et ce ne serait que la partie visible de l'iceberg, ce cas de la P26. Le gouvernement fédéral, dit-il, a un problème général avec le traitement des documents importants de l'État. L'administration fédérale applique le principe « dans le doute ». Censurons. Des documents sont au secret pour 50 ou 80 ans au lieu des 30 ans habituels. Et les historiens qui en demandent l'accès, comme ils en ont le droit, se voient imposer de nombreuses barrières durant la procédure. Et ce verrouillage est dangereux, dit l'historien. La disparition ou l'accès impossible à des documents alimente tous les fantasmes.
Des archives, on passe à Twitter, Valérie, avec l'histoire de cet étrange compte au nom de Guy Parmelin.
Der falsche Parmelin, le titre d'un petit article qui attire forcément l'œil ce matin dans la Luzerner Zeitung. Le ministre de la Défense, lui qui veut justement renforcer notre cyberarmée, s'est lui-même fait pirater. Mercredi est apparu un compte Twitter, @GuyParmelinCH, avec une photo du conseiller fédéral. Il disait « Bienvenue » en trois langues ce même mercredi. Le deuxième tweet, c'était hier, en anglais, n'était pas aussi anodin. Il annonçait la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Alors bon, le compte a été supprimé hier soir, mais le journal rappelle aussi dans ce même contexte qu'Ouli Maurer a lui également son faux compte, mais depuis des années, parce que on voit très bien celui-là que ce n'est pas un vrai. Tous les tweets commencent par « The Christophe had said », Christophe a dit.
Pas de falsche berset, monsieur le président. Vous êtes un champion du tweet et d'Instagram. On risque pas de se tromper avec vous.
Bon, écoutez, moi, j'ai toujours été actif sur les réseaux sociaux, bien avant d'être au Conseil fédéral, d'ailleurs. Et je pense que c'est un moyen de communication aujourd'hui qui permet de passer des messages, d'être en contact avec beaucoup de monde dans la population. Et ce sont pas les mêmes comptes, d'ailleurs. Vous savez, si on parle par Twitter, eh bien, ce sont des petits messages qu'on peut passer, une information ici sur la Maison Suisse, mais aussi des choses que j'ai pu faire auparavant dans cette année. Et je crois que c'est un moyen de communication qui correspond au temps et que beaucoup de gens utilisent. Et à partir de là, il est assez logique pour moi de poursuivre avec cela. Alors, moi, il y a sûrement des faux comptes, j'en sais rien, mais disons, les comptes sont certifiés, donc on peut voir que ce sont bien les miens.
On peut vous suivre. On reste dans les nouvelles technologies avec les plateformes Internet sur lesquelles les employeurs sont notés, Valérie.
Oui, un dossier dans l'Aargauer Zeitung. L'anonymat sur ces sites a pour conséquence des critiques parfois violentes contre les employeurs. Pour le créateur de l'une de ces plateformes, il est normal de pouvoir donner son avis sur son employeur, comme on le fait pour les hôtels ou pour des restaurants. Une soupape pour certains employés, estime pour sa part la responsable des assurances sociales argoviennes. Une chef d'entreprise les trouve plutôt utiles. Leur contenu peut permettre des remises en question. Et puis le monde du travail encore, dans le temps cette fois-ci, il se penche sur le casse-tête des horaires de télétravail, donc le travail à la maison. Il revient sur cette initiative parlementaire qui veut allonger la durée légale de ce télétravail à 17 heures par jour. Et enfin, l'AGFI plaide de son côté en une pour une adaptation plus rapide de l'apprentissage aux évolutions technologiques.
Frédéric ?
Sur le fait de noter son employeur, il y avait un courant déjà dans le début des années 90 qui venait des États-Unis sur ces plateformes. Et en fait, ce qui ressortait, c'est que c'est quand même donnant-donnant. Ça veut dire qu'on peut noter son employeur, mais quand l'employeur change de comportement, il attend en retour évidemment que l'employé lui aussi s'adapte.
Oh ben, notre rédacteur en chef qui est en régie, Laurent Casperi, on va lui poser la question à la fin si on peut lui mettre des notes.
Ouais, bon, on va voir quelles notes il nous donne surtout. Allez, l'affaire des malversations de cartes postales maintenant, elle fait toujours les gros titres. La directrice de La Poste, Suzanne Rouoff, est critiquée de toutes parts dans la presse.
Oui, dans La Liberté et Le Courrier, le journaliste Philippe Beuglin, dans son commentaire, ne voit qu'une seule issue de secours, réorienter La Poste vers ce qu'elle est, une entreprise détenue par la Confédération, par les habitants de ce pays. Suzanne Rouoff doit répondre rapidement aux questions qui sont encore en suspens, conseil pour ça par la NZZ. Sinon, la perte de confiance sera encore plus grande. Sur ce sujet aussi, l'interview dans l'Aargauer Zeitung de l'ancien directeur financier de La Poste, actuel directeur de la Banque cantonale argovienne, Pascal Corradi. C'était hier dans les documents du Blick. Il était au courant, dit-il, du conflit au niveau des objectifs de rentabilité de carte postale, mais pas des inscriptions comptables fictives ou fautives, assure-t-il.
Alain Berset, la presse alémanique notamment, a été dure envers Suzanne Rouoff. Elle doit partir pour rétablir la confiance envers La Poste. Selon vous?
Écoutez, je crois que il faut maintenant, dans le fond, je crois que c'est une bonne chose que le président du conseil d'administration ait repris les choses en main. Il faut vraiment établir tous les éléments et puis regarder à la fin qu'est-ce qui s'est produit, à quel moment, qui savait quoi. Certainement qu'il faudra faire un bilan de ces recherches et de ces enquêtes qui ont lieu actuellement. Cette histoire est apparue alors que j'avais déjà quitté le territoire suisse, donc moi j'ai pas tous les détails pour vous répondre.
Les Jeux Olympiques, évidemment, incontournables ce matin dans la presse. Vous nous avez sélectionné, Valérie, les traitements les plus originaux.
Alors, c'est dans Arc Info d'abord qui plonge dans ses archives. Le journal raconte l'épopée en 1968, c'était les Jeux de Grenoble, l'épopée de sept Neuchâtelois qui avaient rejoint Grenoble à ski. Et puis, le Blick, bien sûr, se distingue, comme tous les jours en termes de Jeux Olympiques, avec une double page intitulée « Tout ce que vous devez savoir sur les Jeux » et « Tout, c'est vraiment tout » pour le Blick, qui nous donne même, sortez vos calepins, la liste des athlètes suisses qui ont leur anniversaire pendant les JO. Alors, il y en a une aujourd'hui, c'est Aïta Gasparine. Sa spécialité, c'est le biathlon.
On le saura, comme ça.
N'est-ce pas? Et Beat Feuth, si jamais, c'est dimanche.
Ah ben tiens, ça pourrait être une belle journée pour lui. Alain Berset, le jeu des... C'est difficile, je sais, mais le jeu des pronostics de médailles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors écoutez, c'est toujours très dangereux de fixer un pronostic. On n'est pas dans un pays dans lequel le président de la Confédération ou le Conseil fédéral fixe à l'avance le nombre de médailles. Vous voyez, ça se passe pas comme ça. Donc moi je sais pas. J'espère au moins un résultat avec deux chiffres. Hein. Donc au moins 10, on va dire. Et puis après on verra. J'espère un peu plus. Pour vous dire, je pense être assez modeste avec ça. Mais je crois qu'ils sont en forme. Là, ceux que j'ai vus en tout cas sont très motivés. L'endroit est magnifique. Donc voilà, on a de belles attentes.